1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir une forme d'organisation centre-périphérie que l'on appelle le champ urbain, qui caractérise l'espace des villes et que nous allons illustrer ici par les variations de densité de population. Sur ces images collectées par Alain Berthaud à partir d'observations de satellites du bâti urbain et de données censitaires sur les quantités de population, il a représenté en trois dimensions, donc par des bâtons plus ou moins élevés, le niveau des densités de population dans différents quartiers urbains. Et vous observez que partout, nous avons le même schéma avec des densités plus élevées, beaucoup plus élevées au centre, une diminution assez rapide vers la périphérie et des densités en général assez basses dans les périphéries, que ce soit à Jakarta, à Shanghai ou même à New York. On appelle en fait gradient de densité la mesure de ce contraste, de ces inégalités qui correspondent à une configuration de distribution de forme exponentielle négative du centre vers la périphérie qui caractérise les densités de population dans le champ urbain. Rappelons que ce qu'on appelle un gradient, c'est en fait quelque chose comme une pente, une variation en fonction de la distance. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que Clark, qui le premier a proposé une forme mathématique à ce qui avait déjà été aperçu depuis la fin du 19e siècle au moins par d'autres, comme Hans Bleicher à Francfort, nous avons une relation exponentielle entre la densité à une distance petit r quelconque dans la ville, qui est fonction de la distance à D0, la distance au centre, et multiplié par exponentielle moins br, b étant le gradient de densité, et petit r, l'éloignement à partir du centre. Nous en avons ici une représentation sur la carte de l'aire urbaine de Lyon, avec des teintes plus foncées qui montrent des densités de l'ordre de 5000 habitants au kilomètre carré à proximité du centre, et une décroissance jusqu'à rejoindre dans les périphéries un niveau de densité de l'ordre de 100 habitants au kilomètre carré, qui est le niveau de la densité moyenne en France, avec des auréoles décroissantes en progression géométrique, comme vous le voyez dans la légende, et qui correspondent à une décroissance plus rapide vers le centre. Les auréoles s'étalent vers la périphérie. Ce modèle de Clark, on peut le représenter sur un graphique à coordonnées arithmétiques comme à gauche, et nous avons une belle courbe exponentielle négative. Il suffit de transformer en logarithme l'échelle des densités en ordonnées pour obtenir une droite qui permet de calculer facilement, par une simple régression linéaire, des ajustements et d'estimer la valeur du gradient. C'est ce qui a été fait sur l'exemple de Lyon, où l'on trouve une densité centrale de l'ordre de 17 000 habitants au kilomètre carré et un exposant de la distance de moins 0,26, alors que le même type d'ajustement fait par René Bussière, qui a beaucoup travaillé sur ce modèle, avait trouvé en 1968 pour Paris une densité centrale de l'ordre de 47 000 habitants au kilomètre carré. C'est beaucoup plus élevé, mais c'est normal parce que l'agglomération est beaucoup plus grande. Et un exposant de la distance un peu plus faible, moins 0,18, parce que là aussi, on a des gradients plus élevés en général dans les villes plus petites que dans les villes plus grandes. L'essentiel des variations dans le gradient sont liées toutefois à des formes d'urbanisation différentes entre les villes d'Europe ou d'Asie où les estimations du gradient donnent des réponses en général beaucoup plus élevées, moins 0,24 à Pékin ici et moins 0,22 à Londres par exemple, alors que pour des villes nord-américaines, nous avons à Chicago moins 0,096, à Los Angeles moins 0,058, donc des valeurs, vous le voyez, beaucoup plus faibles qui montrent des inégalités beaucoup moins élevées dans la densité. Pourtant, quelles que soient les villes et leur localisation, on trouve pratiquement toujours partout le même schéma, comme sur ces 9 graphiques établis encore par Alain Berthaud, avec des variations, toujours des densités plus élevées à proximité du centre, puisque nous avons ici les distances au centre en abscisse, et quelquefois l'émergence de centres secondaires comme à Los Angeles ou à New York, puisque ce sont de grandes agglomérations polycentriques. Toutefois, lorsque on visualise ces graphiques non plus avec pour chaque ville une échelle particulière, mais avec ici une échelle commune à tous, donc en ayant exactement la même échelle de densité sur les ordonnées et toujours les distances en abscisse, vous voyez que nous avons des villes qui sont très pentues au sens où elles ont un gradient de densité particulièrement élevé, comme à Shanghai ou encore à Bangkok, avec un niveau de densité centrale moindre toutefois. Mais regardez bien les villes américaines dans la dernière rangée, Atlanta, Los Angeles, New York, nous ne discernons même plus les centres secondaires, tellement ces villes sont aplaties, en ce sens que le gradient de densité y est particulièrement faible et le niveau des densités également. C'est ce que Berthaud a bien représenté sur ce graphique qui montre pour la liste des villes figurant en ordonnée et le niveau des densités moyennes de population en abscisse, en nombre d'habitants à l'hectare. Nous avons une représentation des villes nord-américaines en rouge, des villes asiatiques en bleu et les villes européennes au centre en jaune, en position intermédiaire donc, avec des niveaux généraux de densité urbaine qui sont extrêmement différents. Pour résumer, pour ces villes millionnaires, en moyenne, nous avons entre deux des villes donc qui se caractérisent par une taille supérieure aux millions d'habitants. En moyenne, nous trouvons des densités de l'ordre de 2000 habitants au kilomètre carré en Amérique du Nord. En Europe, c'est quelque part entre 4000 et 10 000 habitants au kilomètre carré. Et en Asie, on atteint 10 à 40 000 habitants au kilomètre carré en moyenne, ce qui est énorme, évidemment. Vous imaginez des densités centrales qui peuvent monter jusqu'à 80, 100 000 habitants au kilomètre carré. Alors, ces différences culturelles, donc par rapport au modèle général, eh bien, il faut les avoir à l'esprit lorsque on cherche désespérément un modèle d'urbanisation durable. Bien évidemment, ça ne peut pas être le même dans les différents continents. Les différences de densité se traduisent par des différences dans l'activité diurne, représentées ici par le nombre de passages dans chaque maille d'un carroyage qui couvrait Strasbourg avec des mailles de taille égale, mais qui ici sont d'autant plus grandes en vert et denses en rouge qu'elles correspondent à des nombres de passages importants dans ces lieux de la ville. Donc vous avez là, pour les circulations à l'intérieur de la ville, un schéma centre-périphérie, évidemment compliqué par des indentations vers les principaux axes de circulation. Et lorsque nous utilisons une représentation en trois dimensions, nous avons ici, comme établi par Michael Wegner à Dortmund, sur la carte du haut, les densités résidentielles avec des contrastes pas trop accusés. En revanche, la centralisation des emplois est beaucoup plus forte et donc un pic dans la densité d'emplois au centre-ville. Et bien évidemment, les circulations présentent également cette forme centre-périphérie avec des contrastes très accusés. Des modèles de type modèle gravitaire, d'ailleurs, permettent de représenter, de résumer tous ces flux qui circulent à l'intérieur de la ville. En voici un exemple qui est donné même à une échelle beaucoup plus large pour l'ensemble du bassin parisien par Frédéric Gilly, qui, à partir donc des nombres d'emplois et des actifs résidents, a pu ajuster un modèle qui, vous le voyez, finalement ajuste assez bien les flux domicile-travail dans l'ensemble du bassin parisien avec un exposant de la distance de l'ordre de 0,78. Alors, le plus extraordinaire, c'est que Ce champ urbain est donc une image à moyenne échelle, à échelle méso. C'est une forme d'émergence à partir de comportements individuels qui ne donnent pas ce même schéma, de cette même configuration des mobilités, puisque chaque habitant réalise au quotidien un mouvement dans le cadre d'un trapèze ou d'un triangle entre son domicile, son lieu de travail et ses lieux d'achat ou de loisirs. Et c'est finalement la réunion de ces formes trapézoïdales ou ces formes triangulaires des espaces d'activité individuelle qui, collectivement, produit un champ urbain circulaire et extrêmement régulier avec ces grands contrastes entre le centre et la périphérie.